Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Stéphanie Roch, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de ce dimanche.
Karim Benzema est forfait. L'attaquant de l'équipe de France s'est blessé hier pendant l'entraînement. Didier Deschamps pourrait rappeler à notre joueur.
La COP 27 s'achève sur un accord ce matin. Aide aux pays les plus pauvres. Pas d'accélération en revanche dans la lutte contre les réchauffements climatiques. On vous explique tout. Et le principal suspect du meurtre d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne, toujours en garde à vue ce matin.
La matinale week-end.
Nous commençons donc bien sûr avec cette Coupe du Monde. Ça démarre aujourd'hui. Il n'y aura donc pas de ballon d'or sur la pelouse. Karim Benzema forfait.
C'est l'information de la nuit. L'attaquant des Bleus s'est blessé hier à l'entraînement. Loïc Braillet, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez l'équipe de France pour RMC. Le forfait du ballon d'or, c'est un immense coup de massue. Et puis c'est aussi une surprise. Il avait repris l'entraînement collectif hier. Vous y avez d'ailleurs assisté.
Oui, exactement. En tout cas, pour les premières 15 minutes qui étaient ouvertes à la presse, là, c'est passé juste avant le début de l'opposition, au moment de la mise en place collective, que Benzema allait d'ailleurs donc intégrer effectivement pour la première fois. Signe que les feux semblaient au vert à ce moment-là, mais sur un appui en pleine course, la star du Real Madrid s'arrête net en se tenant la cuisse gauche, touchée par une pointe de douleur au quadriceps. Il passera dans la soirée une IRM au centre Aspetar de Doha. Verdict, lésion musculaire, 3 semaines de convalescence et quelques minutes plus tard, le communiqué officiel de la FFF qui brise le rêve de Benzema, obligé à 34 ans de déclarer donc forfait pour la Coupe du Monde, la dernière de sa carrière.
Loïc, Didier Deschamps a jusqu'à demain, s'il le souhaite, pour convoquer notre attaquant. Alors, est-ce qu'il y a une liste de noms qui se dégage ?
Alors la réflexion du staff a effectivement démarré très vite, hein, dès hier. Ils sont 7 aujourd'hui, 7 attaquants à être dans la liste du sélectionneur. Parmi ceux qui pourraient être appelés, on peut citer Wissam Ben Yedder, sans doute l'absent de la liste le plus expérimenté avec 19 sélections, mais on peut aussi citer Moussa Diaby, Anthony Martial, Thomas Lemar, voire un novice, pourquoi pas, comme Martin Terrier, le Rennais. Deschamps pourrait aussi finalement décider de ne rappeler personne et faire confiance à son groupe qui se compose désormais de 25 joueurs. On devrait avoir la confirmation de cela dans la matinée.
Merci beaucoup Loïc Braillet. Depuis Doha, Didier Deschamps a réagi cette nuit, vous le disiez, par voie de communiqué au forfait de son attaquant. Il s'est dit très triste pour Karim Benzema. À presque 35 ans, l'attaquant des Bleus s'apprêtait sûrement à vivre ce qui pouvait être sa dernière Coupe du Monde.
La France va donc devoir jouer sans sa star, mais elle pourra quand même compter sur ses supporters.
Sur ses supporters qui auront fait le déplacement de France et ceux qui vivent au Qatar à l'année. Des expatriés qui attendent cette Coupe du Monde depuis de nombreux mois et l'excitation commence à monter.
Toutes les plus grandes stars seront ici, donc on voit pas ça tous les jours. C'est vraiment une chance qu'on a.
On y est, on a du mal à y croire parce qu'on sait que c'est un gros événement. On l'attend avec impatience.
On sent que les gens sortent avec les drapeaux. Voilà, il y a vraiment pas mal de monde. Donc là, ça y est, ça commence à monter un peu l'excitation et tout. Donc c'est cool. Ouais. Tout le pays attend. Voilà, on est heureux, on est prêt. Et voilà, on a hâte que ça commence.
Et le premier match des Bleus, ce sera mardi, bien sûr, à 20h. C'est tout RMC qui se met à l'heure du mondial. Ça commence donc cet après-midi. Le Qatar affronte l'Équateur.
Le Qatar dont on a beaucoup parlé, les polémiques, les conditions de travail des ouvriers, l'accueil des personnes LGBT. Mais il y a aussi une équipe qui va vivre son premier mondial. Le Qatar a toujours été une sélection de naturalisés. Mais depuis quelques années, la formation est à l'œuvre, comme a pu le constater Timothée Mémon.
Longtemps, le Qatar s'est appuyé sur des joueurs étrangers naturalisés qataris. Aujourd'hui, ils sont encore 4 dans l'effectif du pays hôte. Un Portugais, un Ghanéen, un Algérien et un Franco-Algérien passé par l'AS Nancy-Lorraine. À la tête de la 50e nation au classement FIFA, Félix Sanchez, un entraîneur espagnol, mais presque qatari.
Pour moi, c'est comme un accomplissement. 16 ans de travail dans un même pays, ce n'est pas commun. J'ai participé à un projet, j'ai grandi en même temps que mes joueurs. C'est une énorme source de fierté, un moment vraiment spécial.
La majorité de l'équipe sort de l'Académie Aspire, une école de football fondée en 2004 à Doha. Et pour eux, peu importe les polémiques, c'est un rêve d'enfant qui prendra vie ce soir, comme l'explique le capitaine Hassan Alaïdos.
Je suis vraiment fier de participer à cette compétition. C'est un rêve d'enfant. Vraiment, c'est incroyable. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que je ressens.
Côté public, conscient des limites de leurs représentants, le peuple qatari n'en attend pas trop. Surtout, ne pas être ridicule à domicile.
Et puis en bref, l'Angleterre, l'Allemagne et le Danemark ont prévu de porter le brassard arc-en-ciel en soutien aux communautés LGBT et ce, contre l'avis de la FIFA. La Fédération française de football, de son côté, a demandé l'autorisation à l'instance sans retour.
Vous ne voulez rien rater de ce mondial. Vous écoutez RMC sur l'appli Radio 100%. Coupe du Monde, radio, digitale et sur RMC. Tout à l'heure, 8h40, Alain Perrin, ancien entraîneur, et Jeannot Rességuier en direct de Doha. Il est 8h05. Le reste de l'actualité, Stéphane Genest, ils auront discuté jusqu'au bout de la nuit. Les participants à la COP27, finalement, accord.
Deux semaines de négociations pour le moins difficiles. Pour preuve, la clôture a été plusieurs fois repoussée. Mais ça y est, Martin Cadoret, on en connaît les grandes lignes.
Oui, l'avancée principale de cet accord, c'est le fonds pertes et dommages destiné à compenser les dégâts climatiques dans les pays pauvres. Le texte est encore flou. On ne sait pas encore qui paiera ou qui recevra quoi. Un comité spécial doit régler ces détails opérationnels d'ici à la prochaine COP dans un an. Deuxième enseignement de cet accord, l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré est réaffirmé. Mais ce n'était pas gagné. Et pourtant, ce n'est pas suffisant, estime Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique.
Nous regrettons le manque d'ambition sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre que porte cette COP, en particulier la prise en compte de ce que nous dit le GIEC, qu'il faut réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre à partir de 2025. La France le fait, l'Union européenne le fait, mais c'est toute la planète qui doit le faire.
Déception aussi de l'Union européenne. Un pas en avant, trop court, estime le vice-président de la Commission.
Les précisions de Martin Cadoret pour RMC.
L'actualité ce matin, c'est aussi ces questions autour d'un meurtre. Le meurtre d'une jeune fille de 14 ans, Tonneins, dans le Lot-et-Garonne.
Le principal suspect du meurtre de Vanessa est passé aux aveux. Il confirme avoir enlevé, séquestré, violé, puis tué la jeune adolescente vendredi, alors qu'elle sortait de son collège. Devant l'établissement, des fleurs ont été déposées hier, tout au long de la journée. Et Caroline Philippe, l'émotion est évidemment très forte pour les parents, les élèves, mais aussi pour le corps enseignant.
Ses mains fines tentent de glisser deux roses entre les grilles du collège.
Alors moi, je ne connaissais pas la personne, mais...
C'est son collège.
Rosencia, élève de 5e ici, accompagnée de son père.
La petite, elle était sans défense, elle était innocente, elle n'avait rien fait. Et en plus, ça aurait pu être n'importe... quel d'entre nous, et donc du coup on a peur que ça nous arrive à nous.
On n'est pas rassurés en tant que parents.
Il y a également des anciens. Angéline est en seconde aujourd'hui. Elle dépose une fleur, bouleversée et tout aussi inquiète pour sa sécurité.
J'étais quand même sous le choc qu'un événement comme ça se soit passé dans une petite ville où on n'aurait pas imaginé que ça puisse se produire. Le collège aurait dû plus prendre des responsabilités pour assurer les sorties. Ça devrait vraiment être contrôlé.
Les larmes montent pour certains parents d'élèves, choqués et submergés par l'émotion. Le principal du collège...
J'essaie de soutenir la famille comme je peux.
Frédéric Boutrel, très affecté lui aussi, sait que la rentrée sera douloureuse demain.
Il y a une cellule d'écoute qui vient. Une partie pour le personnel, une partie pour les élèves, pour ceux qui ont besoin.
Le principal accueillera ses enseignants aujourd'hui pour se préparer au retour des élèves, à leurs questions et à leurs émotions.
Reportage de Caroline Philippe, envoyée spéciale de RMC à Tonneins.
Et nous serons sur place juste après ce journal. L'actualité est également marquée ce matin par la guerre en Ukraine à nouveau.
Et ces deux informations, Mathieu. D'abord, symbolique, le retour de la liaison ferroviaire entre la capitale Kiev et Kherson. C'est une première depuis 9 mois et le début de la guerre. Et puis le Royaume-Uni promet 50 millions de livres sterling pour renforcer la défense anti-aérienne ukrainienne. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre britannique Rishi Sunak en visite surprise à Kiev hier.
RMC, il est 8h08.
Et nous sommes le 20 novembre, Noël c'est dans un mois. Vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir commencé à faire vos emplettes.
Et vous prenez de l'avance, vous avez sûrement raison puisque les prix vont encore augmenter dans les prochaines semaines et vous avez donc déjà commencé à envisager de quoi mettre sous le sapin.
Je commence à avoir une petite liste, il va falloir que j'y aille. Pourquoi pas profiter du Black Friday du coup la semaine prochaine. On fera tout pour faire plaisir, quitte à se serrer la ceinture nous-mêmes.
J'essaye d'étaler aussi les cadeaux sur plusieurs mois. Je pense pas réduire trop mon budget cadeau. J'ai envie de gâter tout le monde.
Et vous, est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous allez profiter de cette semaine de Black Friday, qu'on appelle maintenant la Black Week, avec des promotions partout?
Ça veut dire que ça dure toute la semaine.
Oui, c'est ça, exactement.
Non, mais je précise, on se
remet. Anglais, bilingue 100%.
Vous avez vu ça? Roche,
bravo. 32-16 si vous souhaitez nous rejoindre ce matin, l'appli RMC, évidemment. Allez, 8h09, Peggy, c'est l'heure de jouer justement et d'offrir de très beaux cadeaux.
Eh bien oui, c'est Noël avant l'heure. Le coffre. Et le coffre? Le coffre spécial Coupe du Monde,
c'est évidemment, c'est le dernier jour en ce premier jour de mondial, dernier jour pour le coffre.
Moi, je suis sûr qu'il y a la totale là-dedans. Il suffit d'envoyer coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec un téléphone Samsung Galaxy M23 et le vidéoprojecteur portable.
Comme ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Comme ça, vous pouvez regarder les matchs partout où vous voulez. Mais vous pouvez aussi remettre tout ça en jeu, ouvrir le coffre. Mathieu a le code, il ouvre le coffre et là, soit il y a des AirPods,
soit il y a la totale Coupe du Monde avec à l'intérieur, écoutez bien, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox série S, un four à mini pizza et un mini bar, tout ce qu'il faut pour vraiment passer une belle Coupe du Monde. Et la totale n'est pas tombée hier. Le coffre n'a pas été ouvert. Enfin bon, bref. Et puis, comme c'est le premier jour du mondial, moi, je suis sûre que ça va tomber.
Quoi qu'il arrive, ce sont de vos cadeaux. Allez-y, coffre par SMS au 732-16. Bonne chance à vous, gagnant ou gagnante, avant 8h30.
À suivre dans la matinale week-end.
Nous partons à Tonneins, émotion et colère dans le Lot et Garonne. Vanessa, 14 ans, tuée après avoir été sexuellement agressée. Annie Gourgue, présidente de l'association La Mouette, qui accompagne les parents de Vanessa, est avec nous dans 2 minutes.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h12, bon réveil à l'écoute d'RMC. Partons tout de suite dans le Lot et Garonne, Tonneins. Un village sonné après la mort d'une jeune adolescente de 14 ans. Un homme a avoué l'avoir enlevée, séquestrée, violée, puis tuée. Bonjour Caroline Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur place pour RMC. Revenons sur les faits. Nous étions vendredi. Que s'est-il passé ?
Eh bien, vendredi, après un cours de sport, Vanessa quitte son collège à pied aux alentours de 13h pour rentrer chez elle. À 18h45, sa mère s'inquiète, sa fille n'est pas rentrée. Elle alerte la gendarmerie, l'enquête débute. Interrogation des voisins, visionnage des images des caméras de vidéosurveillance de la ville. Les gendarmes repèrent la jeune fille à plusieurs endroits. Un véhicule retient aussi leur attention. Avec la plaque d'immatriculation, ils parviennent à remonter jusqu'au propriétaire qui vit à Marmande. « Je sais pourquoi vous êtes là », ce sont ces mots à l'arrivée des gendarmes chez lui. Nous sommes alors vendredi soir. L'homme âgé de 31 ans est placé en garde à vue. Il avoue rapidement avoir tué la jeune fille. Son corps est retrouvé dans une maison abandonnée près de Tonneins dans la nuit de vendredi à samedi.
On en sait un petit peu plus sur le profil de cet homme. Où en est l'enquête ce matin, Caroline ?
Le principal suspect a été entendu une bonne partie de la nuit, selon son avocate. Son mobile reste pour l'instant inconnu. D'après les informations de nos confrères de BFM TV, le suspect a reconnu avoir abusé sexuellement de la collégienne qu'il ne connaissait pas et de l'avoir étranglée. Le procureur de la République ne confirme pas pour l'instant. Une autopsie sera pratiquée sur le corps de cette jeune fille en début de semaine prochaine. Les enquêteurs attendent également les résultats des analyses toxicologiques du principal suspect. Cet homme était connu des services de police. Il a été condamné en septembre 2018 pour une agression sur mineur de moins de 15 ans. Les faits remontent à 2006.
Caroline Philippe, vous vous êtes rendue devant le collège hier de Vanessa. Vanessa qui était élève en 4e en UP2A, c'est-à-dire qu'elle suivait des cours classiques et des cours dans une unité spéciale pour élèves allophones afin d'apprendre le français. Ses parents sont d'origine espagnole. La principale de ce collège décrit une élève discrète et agréable. Écoutons-le.
Je vous confirme le décès d'une élève de notre établissement, âgée de 14 ans, et scolarisée en 4e. Elle était arrivée au collège en septembre. C'était une élève discrète et agréable. Notre première pensée va à la famille de cette jeune fille à qui nous adressons tout notre soutien.
On entend l'émotion, on entend la sidération de ce principal partagé par les élèves, par les parents d'élèves, par le corps enseignant aussi. Un dispositif d'accueil spécial est prévu dès aujourd'hui, Caroline.
Oui, alors les enseignants sont attendus aujourd'hui au sein de l'établissement par le principal, tout simplement pour préparer cette rentrée qu'on imagine et qu'on comprend qui sera très douloureuse demain pour tout le monde. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, une cellule d'écoute, une cellule psychologique sera mise en place au sein de l'établissement. La rectrice de l'académie sera également présente pour bien aider au mieux les familles, les parents d'élèves qui sont tous évidemment bouleversés, très émus par ce qui s'est passé. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir échanger collectivement pour mieux appréhender ce drame.
Et au premier chef, la famille de Vanessa elle-même. Merci infiniment, Caroline Philippe, envoyée spéciale d'RMC à Tonneins. Annie Gourgue, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous présidez l'association La Mouette. Oui. C'est vous qui accompagnez la famille de Vanessa, ses parents. Oui. Quelles dernières nouvelles avez-vous ? Comment vont-ils ce matin ?
Bah écoutez, nous allons les rencontrer tout à l'heure. Nous allons chez eux. Nous avons pris un rendez-vous à 10h où nous allons voir les parents et les frères et sœurs de Vanessa. Voir comment d'abord ils ont passé la nuit. C'est vrai que pour eux, ça a été une journée aussi bien avant-hier qu'hier difficile. Et ben, nous serons près d'eux ce matin. D'abord, je pense qu'ils vont, je pense que la gendarmerie va l'informer, en fait, comment cela s'est passé, puisque ce n'était pas encore possible. Mmh. Et ouais, voilà, nous
vous
allons
avez passé
notre aide.
Vous étiez avec eux dès les premiers instants, au moment de l'annonce du décès de leur fille. C'est le but de votre association, Annie Gourg. Expliquez-nous.
En fait, notre association, c'est la défense, la protection de l'enfant, l'aide et le soutien aux familles et aux victimes. C'est la raison pour laquelle, au moment où la gendarmerie devait annoncer malheureusement la triste fin de cette petite fille, on nous a demandé de venir auprès de la famille pour les aider moralement et psychologiquement. On a besoin d'avoir quelqu'un autour de soi, surtout que la famille, enfin les parents de Vanessa, malheureusement, parle très très peu le français.
D'origine espagnole.
Et voilà, nous avions une traductrice et c'était important pour eux d'avoir auprès d'eux des personnes qui leur disent, bon ben on est là, on est près de vous, on va vous aider, vous n'êtes pas seuls. Et c'est vrai que nous avons pu prendre des dispositions pour les aider, même, j'allais dire, physiquement.
Annie Gourg, je rappelle que nous sommes tristement aujourd'hui journée mondiale des droits de l'enfant.
Tout à fait.
Sur le suspect, ce sont les caméras de vidéosurveillance qui ont permis de remonter très vite jusqu'à lui. Il faut multiplier ces équipements aux abords des établissements scolaires partout en France. C'est ce que défend votre association ?
C'est ce que nous disons, parce que s'il n'y avait pas eu cet audio auprès de cet établissement, je pense qu'on chercherait encore cette petite fille et on n'aurait pas trouvé celui qui a mis fin à la vie de Vanessa. Et vous faites référence aujourd'hui effectivement aux droits de l'enfant. Nous allons à partir de lundi, mardi, mercredi dans les écoles pour parler aux enfants de leurs droits. Et voilà, une enfant de 14 ans, le début de la vie. Un homme, un adulte s'est permis de lui enlever le premier de tous les droits, le droit à la vie. Et c'est vrai que nous allons, il se trouve que notre vice-présidente, depuis que j'ai fondé l'association, est sénatrice actuellement. Et c'est ce que je lui disais, il faut absolument là développer l'idée qu'auprès des établissements, il faut qu'il y ait
une proposition de loi.
C'est le seul moyen pour protéger nos enfants.
Une proposition de loi, Annie Gourg. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur RMC ce matin. Et merci surtout pour votre engagement, Annie Gourg, auprès de ses familles, présidente de l'association La Mouette. 8h19.
À suivre dans la matinale week-end.
Un mondial tout frais payé.
Le Qatar a fait venir des supporters du monde entier, tout frais payé, effectivement, pour être sûr de remplir les stades. Alors, qui sont ces fans invités, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on leur a payé exactement? Quelles sont les contreparties? Enquête RMC dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h20, vous êtes sur RMC, bon réveil, c'est le jour J. Le grand jour à Doha, tout à l'heure, 15h, ouverture de cette Coupe du Monde 2022, RMC Radio officielle. Ouverture dans un stade qui sera plein, en tout cas les autorités qataris s'en sont assurées et ont sorti le carnet de chèques.
L'enquête RMC.
Qui sont ses supporters ? Tout frais payé par le Qatar. On va essayer de savoir, de comprendre exactement de quoi il en retourne avec la rédaction d'RMC et plus précisément avec Martin Bourdin. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous.
Bonjour.
L'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, Martin Bourdin. Le premier match tout à l'heure, donc 17h, Qatar-Équateur. A priori, c'est pas une affiche qui ferait déplacer les foules, mais l'Émirat a trouvé la solution pour remplir les tribunes.
Oui, peut-être que tout à l'heure, vous allez apercevoir dans les tribunes du stade d'ouverture un patchwork de maillots de foot aux couleurs des 32 nations qualifiées pour cette Coupe du Monde, car effectivement, entre 40 et 50 supporters de chaque pays ont été invités, tout frais payés ou presque, par le comité suprême, le comité d'organisation de cette Coupe du Monde. C'est le cas, par exemple, de Renaud et de Jean-Claude, deux supporters belges.
Ils ont vraiment payé l'hôtel et l'avion d'eux-mêmes.
Pas de logement payé, pas d'avion, c'est quand même une terrible aide pour pouvoir assister à un match.
La seule obligation du séjour, c'est aller voir le match d'ouverture et être présent au niveau de la cérémonie d'ouverture également. Donc, c'est vraiment la seule obligation qu'on a reçue.
Et encore, ils nous offrent les places. Ah, Père Noël est passé.
Et c'est un joli cadeau quand même, hein, puisqu'on estime que ce voyage coûterait autour de 5000 euros. Environ 1600 supporters vont donc en bénéficier. Ça veut dire que le comité suprême a dépensé au moins 8 millions d'euros pour inviter ses supporters. Et encore, il était question que chaque fan reçoive une carte bancaire prépayée avec environ 70 euros par jour dessus, ce qui a finalement été annulé.
Bon, mais alors pourquoi ils sont là, ces supporters, Martin ?
Eh bien, ils assurent, ces supporters, qu'ils sont assez libres finalement. Ils n'ont rien signé avec le comité d'organisation, ils ont simplement reçu des documents, une sorte de règlement, un code de conduite aussi, rien d'obligatoire. Ils ne sont pas obligés, par exemple, de promouvoir le Qatar sur les réseaux sociaux. Ils doivent simplement rester au moins jusqu'à la fin du premier tour, le 2 décembre. Et on l'a entendu, ils doivent aussi être présents lors du match d'ouverture. Tout à l'heure, ils sont invités pour ce match, mais surtout pour la cérémonie d'ouverture. Hervé Mougin, le patron des Irrésistibles Français, le principal groupe de supporters des Bleus, y voit une regrettable opération de communication.
L'idée, c'est d'avoir des images de supporters par petits carrés de chaque pays qui puissent faire une belle communication en se disant que c'est une commune du monde comme les autres et que les supporters de tous les pays sont déplacés et que c'est festif dans les tribunes. Et vous verrez que si dans certains matchs, il n'y a pas beaucoup d'animation, ils seront capables de ressortir des images de ces petits carrés de supporters qu'ils auront filmés sur le match d'ouverture. Il y a une certaine perversion, effectivement, du supporter avec ce type de démarche.
Voilà, donc plus que pour remplir les stades, c'est surtout, d'après lui, un moyen pour le Qatar de s'assurer une belle ambiance pendant le Mondial.
Et comment tout cela s'est fait? Comment ont-ils été recrutés, ces fans?
Alors, le comité suprême a d'abord recruté ce qu'on appelle des fans leaders, des genres de fans invités plus. Il y en a au moins un par pays. Le fan leader français, par exemple, avait passé un concours auquel il avait postulé. Il a accompagné ensuite le comité suprême dans l'organisation de cette Coupe du Monde, notamment sur tout ce qui touche à l'accueil des supporters. Et c'est lui, comme tous les autres fans leaders des nations qualifiées, qui s'est occupé des invitations de supporters français. Le comité d'organisation lui a donc délégué cette tâche. Il a choisi lui aussi parmi les fans qui vont voir le plus de matchs de leur équipe nationale, en l'occurrence de l'équipe de France. Ces fans invités sont de vrais supporters, donc qui sont là pour supporter leur pays. D'ailleurs, beaucoup ont évidemment des billets pour aller à leurs frais, cette fois, aux différents matchs de leur équipe ici à Doha.
Merci Martin Bourdin, envoyé spécial à Doha pour RMC. Enquête à retrouver, bien sûr, en intégralité sur rmc.fr.
Et ce mondial au Qatar, est-ce que vous vous réjouissez? Est-ce que vous avez hâte? Allez-vous le suivre? On en parle avec vous ce matin.
Et est-ce que vous êtes pessimiste après le forfait de Benzema pour l'équipe de France, 32-16? On va en débattre avec vous et surtout en discuter avec Jean Rességuier depuis Doha là-bas et avec Alain Perrin, ancien entraîneur de l'OL, mais aussi de trois clubs qataris, nos invités tout à l'heure à 8h40. En attendant, 8h24, on vous régale.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC?
Le coffre RMC.
C'est la dernière fois qu'on se pose cette question. C'est le premier jour du Mondial au Qatar. C'est la dernière fois qu'on se demande si vous allez ouvrir le coffre RMC pour peut-être une dernière fois remporter la totale pour voir cette Coupe du Monde.
Et alors, dans la totale, je vous dis ce qu'il y a.
Allez-y.
Une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox série S, un four à mini pizza, un mini bar. La totale pour pouvoir suivre la Coupe du Monde.
Eh bien, nous allons voir. Le tirage au sort a eu lieu. Vous avez joué avec nous depuis 6h ce matin. Le tirage au sort tombe sur Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
En forme ce matin?
Super, ouais, je travaille. Je suis infirmier à domicile, donc j'ai commencé très tôt.
Fan de foot de l'équipe de France?
Ah ben oui, à Marseille, on est obligé de faire Marseille, à côté.
Bon, j'ai bien compris, Thomas.
Quoi qu'il en soit, vous repartez avec un cadeau, ça c'est sûr.
Le Samsung Galaxy M23 et le vidéoprojecteur portable pour suivre tous les matchs. Ça vous plaît?
Oui, c'est pas mal, mais on va jouer. On est joueurs dans le Sud-Est.
On a un joueur pour le dernier jour, moi j'adore.
Donc, vous remettez en jeu le téléphone et le vidéoprojecteur. Vous ouvrez le coffre?
Évidemment.
Sûr et certain?
Sûr et certain.
C'est votre dernier
mot, Jean-Pierre.
Je fais le code.
Allez, moi j'y
crois. J'ouvre le coffre RMC.
Des AirPods ou la totale?
Y a-t-il dans ce coffre? Il y a la totale, Thomas!
Bravo!
Oh, la totale! Oui. Génial,
une télé 70 pouces pour vous, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Vous allez pouvoir suivre la Coupe du Monde avec tout ça à la maison. Vous allez être bien.
Oh là là, les bras m'en tombent. C'est génial, merci beaucoup.
À la maison avec les copains, les Marseillais, au boulot aussi si vous le souhaitez. Parce que
je suis pas vraiment sur Marseille, je suis à côté sur Aubagne, mais c'est cool.
Le four à mini pizza est transportable. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je peux vous dire que vous pouvez l'apporter partout et ça fait chic.
Et le mini bar aussi. Ouais.
Pour l'apéro.
Je vais régaler mes confrères et mes consoeurs comme ça, super. Parfait.
Merci d'avoir joué avec nous, Thomas. Et surtout,
merci
excellent mondial à l'écoute
d'RMC.
Bonne journée.
À
Bon réveil à l'écoute des RMC en ce dimanche. Pas mal de pluie, Peggy Broche.
Oui, c'est vrai qu'on a une perturbation pluvieuse qui est actuellement sur l'ouest du pays, entre l'Aquitaine, les Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais. Ailleurs, c'est un temps gris, sauf entre les Alpes et la Méditerranée, où il y a du soleil toute la journée avec du vent. Et cette perturbation, elle va se déplacer. On va la retrouver cet après-midi entre les Pyrénées, le Massif central et les Ardennes. Sur l'ouest, un ciel de traîne avec plus d'éclaircies, mais encore des averses entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et entre l'Alsace et le Lyonnais, ça restera gris. Et dans le sud-est, du beau temps. Tout ça sous des températures de saison de 7 à 14 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Vous êtes sur RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde de la FIFA 2022, 8h30.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux. Stéphanie Roque, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin.
C'est l'information de la nuit. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. Coup dur, Didier Deschamps a jusqu'à demain pour convoquer un nouvel attaquant.
Le village de Tonnins dans le Lot-et-Garonne sous le choc ce matin après le meurtre d'une jeune fille de 14 ans. Et clap de fin de la COP27 avec un accord trouvé cette nuit in extremis entre tous les participants.
La matinale week-end.
Vous allez donc vivre ce mondial jusqu'au 18 décembre sur RMC et ça commence dès aujourd'hui.
Le Qatar s'apprête à accueillir la planète foot. On va d'ailleurs retrouver notre envoyé spécial depuis Doha, Martin Bourdin. Bonjour Martin.
Bonjour à tous.
Alors tout à l'heure, vous cherchiez des supporters, je crois que vous en avez trouvé. Quelle est l'ambiance dans cette ville qui accueille la plus grosse compétition mondiale avec bien sûr une ombre au tableau, le forfait de Karim Benzema ce matin qui est dans toutes les têtes.
Eh bien Stéphanie, jamais, hein, depuis que je suis arrivé, je n'avais vu autant de monde et surtout autant de maillots de foot dans le souk de Doha. Dès le matin, on sent que les supporters ont posé le pied ici au Qatar. On le sent ça surtout depuis hier, hein, finalement. Beaucoup plus de maillots dans les rues, je vous le disais, beaucoup plus de drapeaux également sur le dos des gens. On croise régulièrement et de plus en plus souvent des supporters, notamment des supporters sud-américains ou tunisiens, danser, chanter. Ce qui les fait parler, ces supporters, ce matin, c'est effectivement ce forfait de Karim Benzema. Une déception pour tous les fans que j'ai pu rencontrer ce matin, quel que soit leur nationalité. Le Ballon d'Or ne sera pas à la Coupe du Monde et tout le monde trouve ça dommage. C'est particulièrement dur à encaisser pour les Français comme Benjamin et Chico. Ils ont appris la nouvelle à la descente de l'avion cette nuit en arrivant à Doha.
Un peu dégoûté parce que c'est quand même un élément important.
On espère que les remplaçants de ces joueurs-là se montreront à leur niveau sur le terrain, quoi. On a confiance aux autres aussi, donc voilà.
Pour la phase de poule, pour finir dans les deux premiers, on est quand même assez confiant. L'Australie, il faut leur faire attention. Il faut nous mettre Giroud devant et marquer un but de la tête.
Voilà, on a eu un début de compo d'équipe. Giroud devant, des supporters français forcément déçus. Merci beaucoup Martin Bourdin. L'équipe de France qui se réveille avec la gueule de bois après le forfait de leur attaquant vedette, Karim Benzema, blessé hier soir pendant l'entraînement, comme vous le révélez RMC Sport. Fin du rêve, Fabrice Hawkins.
Oui, mondial terminé avant même d'avoir commencé pour Karim Benzema, dont l'état de forme posait question depuis lundi. Hier, il avait pu prendre part pour la première fois à l'entraînement collectif, mais une blessure à la cuisse gauche l'a obligé à stopper la séance. Les examens ont révélé une lésion au niveau du quadriceps, le Ballon d'Or s'est fait mal tout seul, pas de choc avec un partenaire. Didier Deschamps a réagi dans un communiqué. Je suis énormément triste pour Karim, qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. L'attaquant du Real Madrid, pour rappel, ne faisait pas partie du groupe champion du monde en 2018. S'il souhaite le remplacer, le sélectionneur a jusqu'à demain, veille du premier match, pour convoquer un nouveau joueur. Les noms de Moussa Diaby, Martin Terrier ou encore Wissam Ben Yedder circulent. Didier Deschamps peut aussi décider de poursuivre avec le même groupe. La décision sera prise aujourd'hui.
Les blessures s'enchaînent. Et oui, dans ce mondial, alors qu'il vient de débuter, il y a une autre star de ce mondial dont l'état de santé préoccupe, Stéphanie.
Oui, surtout en Argentine, qui préoccupe tout un peuple. Quel regard tourné vers Lionel Messi. La star s'est entraînée une nouvelle fois en marge du groupe hier. Et c'est vrai que le forfait de Benzema n'est pas de nature à rassurer les observateurs. Mais Messi, à l'entraînement, même seul, c'est toujours un événement. Et c'était l'effervescence à Doha hier autour du terrain d'entraînement. Florent Germain.
Oui, ils étaient quasiment 300 journalistes à vouloir braquer leur caméra ou leur appareil photo sur Lionel Messi. La presse argentine commençait à se faire à l'idée que le capitaine n'apparaîtrait pas quand soudain...
Ahora sí, arrancamos nosotros y aparece Leo.
Salió tarde, pero salió. Está diferenciado.
Passion maximale donc et commentaires en direct. Léo est là finalement. Léo arrive, mais il s'entraîne à part. Oui, il s'est entraîné, Léo Messi, avec un préparateur physique. Juste une précaution, affirment les journalistes qui suivent de près l'Albicéleste.
Il ne faut pas être alarmiste, mais c'est la réalité. Il s'est entraîné à part. Il y a une toute petite préoccupation, minuscule, car on sait qu'il sera prêt. Logiquement, ça fait bizarre de le voir à l'écart du groupe, mais c'est juste une gestion de sa part pour être en forme contre l'Arabie Saoudite.
Argentine-Arabie Saoudite, ce sera ce mardi à 11h. Tout un peuple croise les doigts pour que Messi soit là.
Surtout que le septuple Ballon d'Or va vivre son dernier mondial, lui qui a tout gagné en club. Rêve de soulever le plus prestigieux des trophées. Rendez-vous compte, l'Argentine n'a plus gagné la Coupe du Monde depuis 86. C'est avec un certain Diego Armando Maradona, la Coupe du Monde qui démarre donc aujourd'hui. Elle est à vivre, Mathieu, sur RMC jusqu'au 18 décembre.
Vous ne raterez rien, la radio officielle de cette Coupe du Monde 2022. 8h34. L'autre grand titre de l'actualité, Stéphane Jeunesse, nous emmène à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne.
Le village toujours sonné après la mort d'une jeune adolescente de 14 ans. Un homme a avoué l'avoir enlevée, séquestrée, violée, puis tuée. On vous retrouve, Caroline Philippe, vous êtes sur place pour RMC. Et les habitants peinent à réaliser ce matin l'horreur de ce qu'a vécu cette jeune fille.
Oui, comme sonné par ce drame, toute la ville de Tonneins est en deuil, à commencer par le maire, très affecté. Après une journée au chevet de la famille de Vanessa, il est quand même passé en mairie hier soir, enregistrer une courte vidéo diffusée sur Facebook pour dénoncer l'horreur et exprimer sa solidarité, sa compassion envers les proches de la victime. C'est aussi le message des quelques élèves et de leurs parents, très émus, venus déposer des roses blanches devant les grilles du collège Germillac, où l'adolescente était scolarisée en 4e. Le principal de l'établissement, bouleversé lui aussi, accueillera aujourd'hui ses enseignants pour préparer la rentrée de demain qui s'annonce douloureuse. Symboliquement, les manèges de la fête foraine n'ont pas démarré hier. La traditionnelle foire devait être inaugurée. Elle ouvrira tout à l'heure, mais dans le silence, sans musique.
Caroline Philippe, envoyée spéciale de RMC à Tonneins.
L'information de la nuit, c'est cet accord final trouvé en Égypte à l'occasion de la COP27.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, confirmation du respect de l'objectif de contenir le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, sans pour autant préciser le détail des moyens à mettre en œuvre. Voilà pour les grandes lignes, mais pour beaucoup, ce n'est pas assez. La France, l'Union européenne critique le manque d'ambition du texte, tout comme Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
Soyons clairs, notre planète est toujours en état d'urgence. Nous devons réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, et c'est une question qui n'a pas été abordée lors de cette COP. Le fonds pour compenser les dommages des pays pauvres est essentiel, mais ne servira à rien si la cause climatique balaye une petite île de la carte ou transforme un pays africain en désert. Le monde a toujours besoin d'un énorme effort en termes d'ambition climatique.
Et réaction à l'instant du Premier ministre pakistanais, il estime que c'est une étape décisive pour la justice climatique. Le Pakistan, qui comme d'autres pays comme le Nigeria, frappé récemment par d'importantes inondations, preuve non négligeable du changement climatique.
Et puis on termine en Ukraine, la situation après la visite surprise hier du Premier ministre britannique à Kiev.
Rishi Sunak qui a assuré à Volodymyr Zelensky du soutien du Royaume-Uni jusqu'à ce que l'Ukraine gagne. Il promet 50 millions de livres sterling pour renforcer la défense anti-aérienne du pays. Et sur le terrain, ce symbole, la réouverture hier de la ligne de train entre la capitale Kiev et Kherson au sud, à bord de ces rames, Émeric Dantreuil, 200 passagers.
Après une nuit de trajet, le train en provenance de Kiev arrive en gare de Kherson pour la première fois depuis le mois de mars. Lorsqu'enfin les portes s'ouvrent, c'est l'heure des retrouvailles entre les passagers et leurs proches venus les accueillir. À peine descendu du train, Grigory ne peut se retenir de crier « Gloire à l'Ukraine !» 9 mois que le sexagénaire avait fui Kherson, alors c'est les larmes aux yeux qu'il retrouve sa ville natale et surtout son fils.
Je n'arrive même pas à mettre deux mots sur ce que je ressens.
Sur le quai de la musique, des familles, des soldats qui signent des drapeaux. Un peu plus loin, c'est Anastasia qui enlace sa mère.
Elle m'a attendu tout ce temps. Elle a survécu à l'occupation ici. Elle est heureuse car j'ai promis que je reviendrai et j'ai tenu ma promesse.
Pour tous, ce train est symbolique, en témoignent les slogans inscrits sur les wagons, le peuple d'acier ou encore le train vers la victoire. Pour Olena, c'est une page qui se tourne.
Je suis née ici. C'est là que sont mes racines. Je souhaite juste que personne ne revive ça. On réalise enfin ce qu'est la liberté et l'amour pour sa ville natale.
Si le train est rétabli, la situation reste cependant précaire à Kherson. L'eau et l'électricité sont toujours coupées et le front reste proche à quelques kilomètres de la ville seulement.
Émeric Dantreuil pour RMC. Merci beaucoup Stéphane Jeunesse. Prochain point sur l'info tout à l'heure à 9h. La matinale week-end et cette grande question. Ce matin, après le forfait de Benzema, êtes-vous inquiet, pessimiste pour l'équipe de France? Peut-elle tout de même réussir son mondial? Pour le moment, sur notre compte Twitter, vous nous répondez oui, elle peut réussir son mondial sans Benzema à 60%. Nous poursuivons cette discussion avec vous au 32-16, mais aussi avec Jean Rességuier qui vous fera vivre cette compétition jusqu'au 18 décembre. Jean Rességuier avec nous dans 2 minutes et Alain Perrin, ancien entraîneur de l'OL, mais aussi de 3 clubs qataris. Tout cela, allez, oui, dans 2-3 minutes. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Tous engagés.
Bienvenue sur RMC, 8h43. Tous engagés derrière les Bleus en ce premier jour, jour d'ouverture du Mondial à Doha, cette Coupe du Monde 2022, RMC Radio officielle. Et surtout, après cette info de la nuit, cette info du début de Mondial, Karim Benzema, forfait. Bonjour Alain Perrin.
Bonjour.
Ancien entraîneur de Troyes, de Marseille, de Lyon, de Saint-Etienne, mais aussi d'Al Khor, club qatari. Vous avez travaillé au Qatar, merci d'être avec nous. C'était dans les années 2010 en plus que vous avez travaillé au Qatar, on va y revenir. Bonjour Jean Ressayer.
Bonjour Mathieu.
Envoyé spécial d'RMC, l'un de nos envoyés spéciaux là-bas à Doha. Juste petite carte postale pour commencer, Jeannot, ça y est, c'est parti. Il y a eu le temps des polémiques, place au foot.
Oui, oui, ça y est, nous y sommes. La 22e Coupe du Monde de l'Histoire va débuter cet après-midi à 17h, ici au Qatar, ce petit pays si controversé qui n'a pas toujours été respectueux des droits humains pour ses travailleurs qui ont contribué à l'élaboration de ces stades magnifiques comme celui d'Al Khor à 30 km de Doha, le Al Bayt Stadium qui va accueillir l'équipe nationale du Qatar et celle de l'Équateur pour ce match d'ouverture inédit. 60 000 places perdues au milieu de nulle part, au bout d'une autoroute, un stade qui doit son nom au Bayt Al-Shahr, les tentes traditionnelles des peuples nomades du Qatar. Les dernières 48 heures, vendredi, samedi, qui est en fait le week-end ici au Qatar. C'était plutôt festif, les supporters arrivent petit à petit et le souk Waki a pris les allures de lieu de rendez-vous, Mathieu, des fans des 32 équipes. On y est vraiment, on y est dans cette Coupe du Monde.
On y est, on a hâte surtout. 32-16 si vous allez suivre cette Coupe du Monde. Aldo, Anthony seront avec nous dans quelques instants. Juste sur cette carte postale que vous venez de nous décrire, Jean Ressayer, il y a un coin qui s'est écorné cette nuit. La confirmation est tombée un peu après 23h. Benzema, forfait, blessure au quadriceps de la cuisse gauche. Ça veut dire quoi, Jean Ressayer, juste avant le premier match dans une compétition d'une pareille importance? Ça veut dire que cette équipe de France peut faire un moins bon mondial?
Non, c'est un vrai coup dur pour le joueur, d'abord Karim Benzema. Ballon d'or qui n'avait pas fait de Coupe du Monde depuis 2014, qui n'était pas là en 2018 et qui attendait beaucoup de cette Coupe du Monde au Qatar. Alors on sait que depuis le 22 octobre, il était blessé à cette cuisse. La blessure d'hier n'a rien à voir, c'est pas une rechute, c'est simplement le fait que d'avoir travaillé et d'avoir essayé d'être prêt pour le match d'ouverture a peut-être fait qu'il a compensé différemment d'un point de vue musculaire. C'est ce qu'on craignait un peu, hein, de savoir s'il allait être présent pour le match d'ouverture. Et puis hier soir, voilà, il s'est blessé tout seul, c'est malheureusement la faute à pas de chance.
Alors, le destin, nous disait coach Courbis ce matin.
Jouer sans le ballon d'or, la France l'a déjà fait. Deschamps sait qu'il peut constituer une équipe. Il a travaillé sans Benzema maintenant depuis qu'ils sont arrivés à Clairefontaine. Mais oui, c'est clair que d'avoir travaillé comme ça pour préparer sa présence lors du match contre l'Australie, il y a peut-être eu cette compensation parce qu'il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de tacle, il s'est fait mal tout seul.
Alain Perrin, qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment? Mauvais signal à trois jours du premier match pour l'équipe de France. Quel est votre sentiment ce matin?
J'ai peur, j'aime pas. On est un peu superstitieux quand on est entraîneur parce que lorsqu'on fait ces grandes compétitions, je dirais qu'il faut que toutes les planètes soient bien alignées et en particulier que tout se déroule bien. Et quand on voit un petit peu l'accumulation des blessés avant, c'est pas forcément un très bon signe. On n'aime pas du tout avoir justement parce qu'on a une équipe type en tête et puis lorsqu'on doit faire c'est changer ses plans, et ben on n'aime pas du tout ça quand on est entraîneur. Donc c'est vrai que ça part pas bien d'avoir ces défections juste avant le mondial.
Ouais, l'équipe de France peut-elle réussir sans Benzema? Vous êtes 60% à nous répondre malgré tout oui ce matin sur Twitter. Aldo au 32-16. Bonjour Aldo.
Oui, bonjour.
Forfait inquiétant tout de même. Selon vous.
Oui, alors malheureusement, je ne fais pas partie des 60% qui pensent que l'équipe de France va pouvoir aller très loin.
Oui.
Bon, on nous dit souvent la référence de 2018, l'équipe de France a été championne du monde sans Benzema, mais il y avait quand même tout le monde. Là, il n'y aura pas Pogba, il n'y aura pas l'autre demi-terrain,
Nolo.
Voilà. Il n'y aura pas également la charnière centrale avec Kimpembe. Je pense que Varane aussi ne va pas faire non plus de vieux os. Et c'est quand même incroyable qu'on puisse, parce que je crois pas qu'il y ait une équipe encore nationale qui arrive dans une compétition comme celle-là, avec autant de blessés. Enfin, très honnêtement, moi je pense que ils vont peut-être finir second, et puis ensuite en huitième de finale, ils chopent l'Argentine et ils sont dehors, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Hein. Allô, Anthony n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Bonjour Anthony.
Bonjour Mathieu,
inquiétant,
bonjour
Jeannot, bonjour Monsieur Perrin. Salut Anthony. Inquiétant, mais tout de même, effectif solide.
Mais bien sûr que oui, il n'y a pas une équipe dans le monde qui pourrait se passer du meilleur joueur du monde. Cependant, je pense que, comme il le dit, hein, comme l'a dit Aldo, il n'y aura pas Kanté, il n'y aura pas Pogba, il n'y aura pas Zizou non plus. Mais je pense qu'on a des ressources pour faire quelque chose. Hein.
Et aller jusqu'où ? Prononcez-vous, parce que Aldo nous dit grand maximum jusqu'au huitième. Anthony, ce matin, nous disait dernier carré. Kamel aussi, demi-finale.
Mais oui, hein, je vais être sur la ligne d'Éric Dimeco. Hein, je pense qu'on peut, on a les capacités de sortir de premier du groupe. Après, quand, si on sort premier, on est du bon côté du tableau.
Mmh. Après, en demi-finale, c'est la bête noire.
Oui, le Danemark, la bête noire, oui.
Oui, il y a eu 15 matchs entre la France et le Danemark. Les Danemans ont gagné 7 fois, les Français 7 fois, et il y a eu un match nul. Et les derniers matchs, ils les ont tous perdus. Les Danois, ce n'est pas des peintres. Hein.
Ce qui est sûr, messieurs, quoi qu'il arrive, on le vivra sur RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde 2022.
Grâce à vous.
Mondial pour la première fois au Moyen-Orient. Je voulais le signaler et le souligner, pardon, quand même avec vous, Alain Perrin, parce que donc vous avez entraîné trois clubs qatariens. Avec l'expérience que vous avez de ce pays, il faut s'attendre à quoi ? La ferveur dans les stades. C'est quoi l'enjeu pour le Qatar ?
L'enjeu pour eux, c'était déjà l'exposition au monde à travers les médias. Donc ça, ils l'ont. Ils l'auront. Et après, ils sont capables d'utiliser des artifices de remplissage des stades, par exemple en donnant des places gratuites aux travailleurs locaux. Ils vont remplir les stades pour pas justement donner cette impression d'un fiasco de la part des supporters. Parce que déjà, quand moi j'y étais, il y avait souvent des groupes de supporters qui étaient amenés en quart, et qui étaient justement des travailleurs immigrés à qui on donnait, on va donner 5 € ou ça, pour venir faire la claque. Donc ça, ils sont capables de faire pour pouvoir combler les stades.
Des faux supporters rémunérés ?
Oui, c'était des gens qui venaient faire la claque pour pouvoir faire, parce que souvent dans les matchs qu'il y avait en 2011-2012, il y avait plus de sécurité dans le stade que de spectateurs. Hein.
Et ça fait mal lorsqu'il s'agit alors d'un championnat pour le Qatar, mais d'autant plus quand c'est une Coupe du Monde. Alain Perrin, au moment de l'attribution, vous arrivez vous en juin 2010, on annonce l'attribution quelques mois plus tard. Qu'est-ce qui a changé dans le pays et surtout dans le monde du foot au Qatar ?
Oui, c'est surtout les infrastructures qu'ils ont dû se mettre. Hein. Mais effectivement, donc, j'y étais lorsqu'ils ont fait l'attribution, ça a été une grande liesse populaire et tout. Je me souviens encore des défilés de voitures, des klaxons. Et c'était incroyable cette fête-là. C'était quand même, à mon échelle, une grosse surprise hein, que ça soit attribué pour le Qatar. Et je pensais qu'il allait y avoir peut-être avec une entente avec les Émirats, parce que ça aurait pu se faire sur deux pays, même si je comprenais l'attribution justement dans cette partie du globe pour la conférence asiatique, c'était important.
Il aurait été intéressant de faire une attribution conjointe Qatar-Émirats Arabes Unis. Oui.
Mais après les rivalités qu'ils ont intérieures là-bas, on se rend compte que c'est pas possible, ils veulent pas partager justement la gloire de faire cet événement et la première fois que ça se fait justement dans un pays arabe, voilà, et donc ça s'est concentré. Le souci, c'était d'accueillir autant de supporters dans un pays aussi petit, quoi. Parce que c'est quand même, tous les supporters sont les uns sur les autres et sont uniquement sur la capitale, sur Doha.
Et Jean, d'ailleurs, je suis sûr, Jean Essayé, je me retourne vers vous, puis on va conclure. C'est ce que vous constatez. Ça fait combien de Coupes du Monde, là ? C'est la combientième, Jean ?
La septième.
La septième. Qu'est-ce que vous voyez de différent dans ce pays ?
La mise en route. Ça fait quand même que 48 heures que je suis là. La mise en route de la Coupe du Monde par rapport à l'organisation et la mise en place des supporters que l'on voit un petit peu partout, que ce soit dans le souk ou dans la ville ou autour de la corniche. Mais depuis hier soir et l'ouverture de la Fan Fest, on sent vraiment que ça y est, ils sont entrés de plein pied dans la compétition. Et ça va venir petit à petit aussi avec l'arrivée des différents supporters, des équipes qui vont attaquer bien évidemment cette compétition. On pense aux Français qui vont arriver aussi petit à petit, également les Australiens. Bref, c'est un tout petit pays, Alain Perrin vient de le dire à l'instant, c'est grand comme l'Île-de-France. Donc de se retrouver avec une compétition et autant de stades autour de nous, même si parfois comme celui d'Alcor et du match d'ouverture est un peu perdu au milieu de nulle part,
oui.
Ça reste quand même une vraie fierté pour eux que d'organiser une telle compétition. La cérémonie d'ouverture sera digne d'une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques, pas vraiment de Coupe du Monde. Donc c'est vraiment pour toucher tous les esprits. Quoi.
L'enjeu est grand. Alcor, oui, tout à l'heure, Al-Khor, cette ville du match d'ouverture, ce club qatari qui a entraîné aussi Alain Perrin. Merci Alain Perrin d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Merci Jeannot Rességuier. Merci Aldo, merci Anthony. Cette Coupe du Monde de la FIFA 2022, vous la suivez bien évidemment sur RMC et sur l'application RMC, notre radio 100% digitale consacrée à ce mondial. 8h53.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
On termine ce dimanche, cette matinale week-end, avec le meilleur de la semaine d'Arnaud de Manche, très inspiré par le No Nut November.
Hier, je vous ai parlé de Movember, qui consiste à se laisser pousser la moustache pour alerter sur le cancer de la prostate. Mais en novembre, il y a aussi le No Nut November.
Ah oui.
Connaissez-vous, Apolline ?
Pas du tout.
Eh bien, c'est un défi qui consiste à n'avoir aucune activité sexuelle en novembre. Zéro. Décidément, c'est plein de choses, hein, le mois de novembre. C'est le mois sans tabac. C'est le mois sans sexe, c'est aussi le mois sans essence, sans chauffage, sans moutarde et sans argent. C'est pas le mois le plus sympa de l'année quand même, novembre. Donc abstinence, y compris solo, hein. C'est que pour les mecs. Il y a des profils pour qui c'est plus facile. Si vous êtes manchot, par exemple. En plus, en général, les manchots savent très mal se servir d'un rasoir, donc ils peuvent faire Movember très facilement. Enfin voilà, pareil, si vous avez de l'acné ou si vous portez des sandales chaussettes, vous allez faire un no-nut November facile, voire un no-nut December, voire un no-nut 2023. Alors vous me demandez à quoi ça sert? Eh ben oui. C'est un défi personnel, ça ne sert absolument à rien. C'est pas pour alerter sur quoi
d'accord.
que ce soit. C'est gratuit.
Mais
rassurez-vous, en décembre, j'ai décidé de lancer l'Ultra Fuck December.
Ah pour on s'inscrit où?
Pour nous faire oublier l'affreux. Ah bah ouais, tiens, voilà. L'affreux mois de novembre qui vient de passer. Voilà, Charles se manifeste déjà parce que le No-Nut November, évidemment, il l'a déjà perdu. Oui. Hein. Éloignez les enfants du poste. Car j'ai une photo compromettante de Charles qui est entouré de deux clitoris.
J'avoue, cette photo est en ce moment même sur.
Voilà. Regardez sur YouTube. Alors, Charles, on n'a pas pu. Hein. Non, je déconne. C'est les mascottes. C'est les mascottes des JO.
C'était pas
c'est
des
c'est vrai que j'ai jamais frigiens. Été aussi proche de deux clitoris.
C'est les petits bonnets phrygiens. Non, mais moi, je les aime bien, ces mascottes. Vous rigolez, mais je les aime bien. Je les trouve mignonnes. Il y a un côté féministe. C'est girl power. Quand je les vois, eh ben, désolé, je pense tout de suite à Simone de Beauvoir. C'est français. C'est tellement Paris. Donc, vive nos mascottes. Voilà.
Et vive Arnaud Demange, que vous retrouvez tous les jours de la semaine. 7h20, 8h20 dans Apolline Matin. 9h05, bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les GG du sport, ça y est, c'est parti.
Eh oui, quelle belle journée avec le début de cette 22e édition de la Coupe du Monde. On va se régaler ce matin, les GG, une émission quasiment intégralement consacrée à ce début de mondial. On parlera à 10h tout de même de ce France-Japon. C'est le match de rugby, ce match compte-t-il pour du beurre? Mais sinon, de la Coupe du Monde avec forcément les Bleus, orphelins, vous en avez parlé, de Karim Benzema, forfait pour la Coupe du Monde. C'est la nouvelle tant redoutée hier soir. Est-ce une catastrophe pour les Bleus? On se posera tout d'abord la question. Nous serons avec Marion Bartoli, avec Pascal Duprat, Marc Madiot et Jean-Louis Tour, notre GG du Qatar.
Quelle équipe! Aucun forfait dans les GG du sport ce matin. À tout de suite, la météo, les infos.